Nous allons lire dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 15. Oui, j'aimerais vous parler du berger et des brebis. Enfin, je vais dire de la brebis, parce que c'est vous la brebis. Luc chapitre 15, verset 1er. Tous les publicains, c'est-à-dire des hommes qui travaillaient pour l'occupant, c'est jamais bien vu quand on travaille pour une armée qui nous occupe. C'était des percepteurs d'impôts très mal vus. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes, eux aussi ne sont pas d'une vie parfaite, derrière des apparences très religieuses, murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie. Il mange avec eux. » Quelle horreur! Quelle horreur de manger avec des gens de mauvaise vie. Vous le pensez vraiment? Continuons l'histoire. Mais il leur dit cette parabole. Car Jésus ne va pas les reprendre en leur faisant la morale, mais une petite histoire où ils vont comprendre, j'espère. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve? Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Amen. C'est la parole du Seigneur. Que Dieu nous parle à travers ce message de l'Évangile. Amen. Le Seigneur cherche toujours des mots nouveaux, pour nous dire son amour. Je pense comme une mère, comme un père qui veut communiquer à son enfant de l'amour, va prendre des mots qui vont parler à son cœur. Comment va-t-il nous dire qu'il nous aime? Il aurait pu dire « Je suis comme un père et vous êtes comme des enfants ». Je crois que c'est une des meilleures paroles qui montre l'amour, non? « Je suis comme une mère et vous êtes comme des enfants. » Un peu turbulent, un peu chahuteur, mais je vous aime. Mais à cette époque, les enfants, bon, n'en faisaient pas toujours beaucoup de cas. Ils n'étaient pas au centre des conversations. Et Jésus, quand il passait de village en village pour annoncer la bonne nouvelle, parfois il lui arrivait de prendre un enfant dans ses bras et le mettre là au milieu de la scène, au milieu de la foule, en disant « Si vous ne devenez pas comme cet enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume du ciel. » Donc il met l'enfant au centre, il remet l'enfant en valeur. Parce qu'à cette époque, dit-on, il n'était pas très mis en valeur, comme aujourd'hui. Alors comment Jésus va faire pour leur montrer qu'il les aime? Ah, ce sont tous des cultivateurs, ce sont tous des agriculteurs, ce sont tous des gens de la campagne qui ont forcément quelques poules ou quelques moutons chez eux. Il va leur dire, on va parler de moutons, mes amis. Et là, tous ceux qui écoutent se ressaisissent. Les moutons, ah, enfin, on comprend. Tout ça pour montrer son attachement à la personne humaine, quelle qu'elle soit et quel que soit le stade de son développement, de sa faiblesse, de sa maladie. Jésus se compare non pas au soleil, qui éclaire tous les hommes, non pas au tonnerre qui fait peur aux dames et aux enfants. Il se compare à un berger. Vous trouvez pas que Dieu s'abaisse quand même beaucoup? Dieu s'abaisse pour se mettre devant nous comme un gardien de moutons, lui qui commande les étoiles et qui crée la nouvelle Jérusalem dans le ciel, une ville avec des places dans la maison du Père pour vous. Vous ne voudriez pas qu'il s'abaisse en se comparant à un berger. Il s'est même comparé à une femme qui cherche une pièce de monnaie, qui retourne toute la maison avec le balai et le plumeau. Quand on n'a que 10 pièces et qu'on en perd une, on a plutôt intérêt à chercher. Je me souviens d'un jour, ma mère avait égaré un billet. C'était des francs à l'époque, je crois que c'était même 100 francs. On n'avait pas beaucoup d'argent. J'ai vu la maison valser. Il fallait retrouver le billet. Peut-être là, sous un meuble ou sous une casserole, je ne sais. Il se compare à une femme inquiète, il se compare à un berger inquiet, il se compare aussi à un père, avec l'histoire dans le même chapitre, l'histoire du père qui perd son enfant, qui s'égare dans les drogues et les plaisirs du monde. Oui. Alors il va parler à ses auditeurs. Aujourd'hui, s'il était avec nous, je crois qu'il prendrait peut-être une autre histoire. Mais là, il va taper vraiment en plein cœur. Lequel d'entre vous, dit-il ? Autrement dit, il va faire jouer les auditeurs avec sa parabole. Il va mettre la parabole dans leur vie. Lequel d'entre vous ? S'il a 100 brebis, je vois déjà les coudes qui se donnent. Ben c'est mon cas, moi j'en ai 130 même. Oh, exactement ça. Oh, il nous plaît cet homme-là. Il parle comme il faut, hein. Les brebis, les moutons, les agneaux, on connaît. Lequel d'entre vous, dit Jésus, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, en perdre une. Une histoire triste quand même, non? Je trouve que Jésus, il a des histoires un peu tristes, non? Vous ne trouvez pas? Il raconte une histoire où un mouton se perd, disparaît, mais la perdition fait partie de l'histoire de l'humanité. La perdition fait partie de votre vie. Sans Dieu, nous ne sommes pas sauvés pour la vie éternelle. On ne peut pas se sauver soi-même. Aucun mérite n'est suffisant aux yeux de Dieu. Et Dieu a un autre projet pour nous que nos mérites. Aucun mérite n'est suffisant pour entrer dans la maison de Dieu, dans le ciel. Oui, la perdition fait partie de notre vie. Nous sommes mal parce que nous sommes trop loin de Dieu. Nous tournons mal dans notre esprit, dans notre tête, parce qu'on a lâché la main de la source de vie. Oh, c'est pas une brebis galeuse. C'est quand même une brebis en bonne santé. C'est la brebis du bon berger. C'est pas une brebis condamnée, c'est pas une brebis méchante. C'est une brebis qui est trop loin, voilà. Tous les gens de cette ville ne sont pas tous des brigands, heureusement. Mais beaucoup sont trop loin de Dieu. Peut-être que c'est vous aujourd'hui. Oui, nous sommes comme la brebis, nous avons marché au gré de nos pensées. C'est nous qui faisions la pluie et le beau temps. On décidait, je ferai ceci, je ferai cela, je ferai des grands greniers, j'aurai une magnifique situation, j'aurai des enfants gentils et aimables. On a fait des projets, hein ? Ça n'a pas beaucoup tenu. On a marché au gré de ses instincts, de ses projets, sans compter sur le fabricant de la vie, le fabricant du bonheur, Dieu. Et c'est ça le drame, mes amis. Le drame de l'existence humaine, c'est que la relation avec Dieu s'est cassée. Je ne dis pas que nous ne croyons pas en Dieu. Je ne dis pas que Dieu ne nous aime pas. Une maman qui perd son enfant parce qu'il claque la porte en brûlant la maison, la maman aimera son enfant. L'enfant sera toujours l'enfant de la maison. On ne peut pas faire autrement. Mais la relation s'est cassée. C'est le drame pour la mère, c'est le drame pour l'enfant. Les drames sont toujours des deux côtés. On ne peut pas voir une mère qui perd son enfant dans la joie et la distraction et la danse, et l'enfant qui est là en péril dans les fossés de l'abîme. La relation s'est brisée, c'est ça la perdition. On n'entend plus la voix du berger. Et si on n'entend pas, on ne peut pas parler. C'est vrai pour les enfants. Si les enfants n'entendent pas la mère et le père, ils ne peuvent pas parler. Si on n'entend pas la voix de Jésus, on ne saura pas où aller. On pensera que tout ce que l'on pense, c'est bon. J'ai raison, j'ai ma conscience. Combien de gens m'ont dit « j'ai ma conscience pour moi ». Je ne le fais pas toujours, mais je voudrais leur dire « avez-vous Dieu pour vous ? Avez-vous l'approbation de Dieu dans tout ce que vous faites ?» La conscience ne suffit pas. Mes amis, cette brebis représente bien chacun de nous et chaque être humain sur la terre. C'est la brebis la plus célèbre de l'univers. Elle représente tout le monde. Oui, son drame de perdition, c'est qu'elle n'est plus avec le berger. Elle n'est pas avec celui qui peut la faire vivre. Notre drame, c'est que si nous nous coupons du Seigneur, je le dis souvent, c'est comme si la rivière se coupait de la source. Si la vilaine disait oh, « j'en ai assez de ma source ». Elle est où la source de la vilaine au fait? Je ne me suis jamais posé la question. Et vous? Vous l'avez déjà vue? Alors vous êtes auprès d'une belle rivière, un peu vilaine parfois, et vous ne savez pas où elle prend sa source. Et si la vilaine disait « j'en ai assez de ma source, je m'en vais ailleurs », eh bien il n'y aurait plus d'eau dans la vilaine. On a besoin de la source, on a besoin de Dieu. Et la brebis courait dans les champs et dans les chemins, mangeant toutes les fleurs et les belles herbes qui se prenaient, qui s'offraient à elle. Vous connaissez tous la chèvre de Monsieur Seguin ? Comme ce conte nous a enchanté l'enfance. La chèvre qui s'en va et qui est magnifiquement heureuse, elle a toute la liberté, elle mange tout ce qu'elle veut, elle court, elle gambade. Mais elle ne sait pas que là-haut, le loup la regarde très gentiment et lui dit « viens ici, ma petite chèvre, je vais faire un bon festin. » Que va faire le berger de notre histoire? Revenons à notre histoire. Parce que cette brebis, c'est nous, cette brebis, c'est moi, et je me demande que va faire le berger. Et il pose la question à tous ces gens qui l'entourent. Lequel d'entre vous, s'il perd une brebis, ne va pas laisser les 99 pour aller chercher la brebis perdue? Et tous les paysans ont dû dire, bah oui, c'est vrai, après tout. Après tout, il a raison. Parce que un bon berger, un bon fermier, quand il perd un mouton, il ne dit pas, bon, c'est pas grave. Non, il s'inquiète. Parce que s'il dit c'est pas grave pour un mouton, demain il y en aura un deuxième, puis après il y aura un troisième, puis dans quelques jours il n'y aura plus de troupeau. Alors il s'inquiète. Personne ne dit, quand on aime son travail, son troupeau, personne ne dit elle a ce qu'elle mérite. Ah, il voulait partir. Elle va manger de la vache enragée. Parfois j'ai entendu des parents dire ça. Ah, il va voir ce que c'est. Il va en baver. C'est dur, hein? Dieu ne parle pas comme ça. Tous les bergers feraient ainsi. C'est ainsi qu'ils ont dû comprendre entre eux. Ils laisseraient les 99 pour aller chercher la brebis perdue. Mais c'est ça l'histoire de l'humanité. Comment résumerais-je la Bible? Si vous me demandiez de la résumer en trois mots, je vous dirais « Dieu est à notre recherche ». Il recherche celui qui est perdu. Il recherche ce qui est perdu en vous. La simplicité, le bonheur de vivre, le goût de vivre, la confiance. Dans l'existence, des choses peuvent s'effondrer dans notre vie et qu'on ne retrouve pas avec les années et la vieillesse. On a perdu confiance. On a perdu la joie et le rire. Le Seigneur cherche ceux qui sont perdus et ce qui est perdu en nous. Où es-tu, Adam ? Première parole de Dieu dans la Genèse à cet homme, le premier de nos grands-parents, qui est parti, qui a lâché la main de Dieu. Il vous recherche à chaque instant. Il n'est pas dans le ciel en attendant que le train arrive. Le train, c'est votre vie, c'est votre vieillesse, c'est votre agonie finale, et puis c'est la mort. Non, il n'attend pas que le train arrive. À chaque instant, il nous cherche parce qu'il sait, dira le livre de Job, que nous sommes un souffle. La vie est un souffle, une vapeur fragile. Une goutte d'eau peut nous tuer. Et Dieu est à notre recherche jusqu'à ce qu'il nous trouve. Job dit, à chaque instant, il nous cherche. À chaque instant, il est toujours préoccupé. Quand vous épluchez les pommes de terre, quand vous mangez votre soupe, quand vous vous couchez, quand vous vous levez, un psaume le dit admirablement, tu sais quand je me lève, tu sais quand je me couche, tu sais quand je m'assieds, tu pénètres mes pensées de loin, tu sais tout de moi, j'ai même pas dit un mot que tu sais déjà tout ce que je vais dire. Voilà comment Dieu est vis-à-vis de vous. Jusqu'à ce qu'il la trouve. Souvent, quand je cherchais quelque chose, ma mère me disait, tu cherches sans vraiment chercher. Moi, je ne trouvais pas. Parce que tu ne cherches pas. Celui qui cherche vraiment de tout son cœur finit par trouver. Jusqu'à ce qu'il la trouve, ça veut dire que Dieu ne se croise pas les bras. Dieu ne se fatigue pas de vous. Dieu ne prend pas son parti en disant « ce sont tous des gens obstinés, je ne peux pas les récupérer ». Non, il nous cherche à chaque instant. C'est beau. La Bible dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses de lui tant de cas? Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui, toi qui as fait les anges si grands en force, en perfection? Voilà qu'il passe son temps avec une de ses plus faibles créatures, une de ses plus ingrates créatures, une de ses plus rebelles créatures, l'être humain, la femme, l'homme, l'enfant, le jeune. Quelle est votre profession ? Chercheur de vie, Dieu, hein ? Chercheur de vie. Il fait ça du matin au soir. Vous y pensez parfois ? Il fait ça toute votre vie jusqu'à ce qu'il vous trouve. Année après année, il suit vos pas, vos erreurs, vos engagements funestes, vos alliances coupables, il vous suit. Nous chercher, mais nous rencontrer, mais ce n'est pas seulement rencontrer votre présence, c'est rencontrer votre cœur, l'intime de votre vie. Parce qu'on peut rencontrer quelqu'un dans un train, moi ça m'arrive souvent d'avoir quelqu'un à côté de moi, je lui dis en général deux mots parce que j'y tiens beaucoup. En général, on ne dit pas un seul mot dans le train. Je lui dis « Bonjour, monsieur ». Puis quand le train arrive à Montparnasse, je lui dis « Au revoir, monsieur ». C'est terrible. Parfois, on parle un peu plus. Un jour, j'ai fait le train de Strasbourg jusqu'à Paris avec une dame qui vient de décéder. On en est tous un peu malheureux. Elle s'appelle Annie Valeton. Celle qui faisait des petits dessins dans la Bible, qui a illustré la Bible des États-Unis, de la France et de tous les pays anglophones. Des millions de Bibles ont été illustrées par Annie Valeton. C'est une dessinatrice admirable. Et un jour, j'étais à Strasbourg avec elle, je revenais, elle était assise auprès de moi. Oh, j'ai dit, oh, je lui parlais, elle était déjà beaucoup plus âgée que moi à l'époque. Je vais lui parler, je vais lui dire, demander plein de choses. Elle m'a dit, je ne veux pas que vous me parliez. Elle était gentille, mais elle avait plein de choses à faire, comme moi aussi d'ailleurs. Alors on a fait le voyage, on ne s'est pas dit un mot. Puis après j'ai dit au revoir Madame Valeton, merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites pour illustrer la Bible, pour qu'elle soit plus accessible. Chercher, c'est atteindre le cœur de la vie. Hein ? c'est pas seulement regarder le visage, le chapeau ou les souliers, c'est aller là où se fait la vie, à la source, là où se fait la souffrance, la mort, l'espérance, la tristesse mortelle. Il veut aller là, le Seigneur, à la source. Rappelez-vous les disciples d'Emmaüs qui étaient tout tristes et qui regardaient leurs chaussures en marchant et qui partaient de Jérusalem parce qu'ils disaient « Jésus, il a tout raté, il est mort et on ne sait plus ce qu'on va devenir ». Jésus les a rencontrés, Jésus les a rejoints, mais il ne les a pas seulement regardés en disant « Ah, vous êtes là !» Il a éveillé leur cœur, il a éveillé leur foi, il leur a parlé, il a cherché en eux, pas en surface, au fond d'eux-mêmes, l'accès à leur cœur. Et pendant qu'il leur parlait, leur cœur brûlait à l'intérieur. Amen. Jésus va dans les profondeurs. C'est le pêcheur de perles qui descend dans les profondeurs de la mer pour chercher la perle dans les profondeurs du cœur. Quand il est entré dans la piscine de Bethesda à Jérusalem, qu'il y avait là des dizaines de manants, de pauvres, de répugnants, de sales, des gens handicapés, infirmes, mal dans leur tête, dans leur corps, dans leurs relations, tout. Il a vu le paralysé qui était là, il l'a vu, mais tout le monde pouvait le voir. Mais Jésus l'a cherché au fond de son âme et lui a dit « Veux-tu être guéri ?» Il va plus loin que de dire un diagnostic, tu es handicapé, tu es là depuis 38 ans, bon d'accord, j'ai fait ta fiche d'entrée. J'ai travaillé à l'hôpital, je faisais les fiches d'entrée. Profession, date de naissance, adresse, merci madame, au revoir, à la suivante. Veux-tu être guéri ? Il va au cœur, c'est là qu'il recherche la brebis perdue. Pourquoi recherche-t-il cette brebis ? Et va bien finir par revenir. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Si le Seigneur ne s'est pas déplacé jusqu'à nous, nous étions incapables de faire un pas vers lui. Oh, monsieur, vous savez, je fais du bien autour de moi. J'ai bien dit, pour aller vers lui, nous étions incapables. Il nous fallait la venue du Christ sur la terre. Il la cherche, comprenez maintenant ce que je veux dire, jusqu'à ce qu'il la trouve, jusqu'à ce qu'il la trouve. Il faut qu'il nous aime quand même. Mais vous ne trouvez pas qu'un homme, une femme peut aimer son enfant jusqu'à ce point ? Je vous ai déjà raconté, mais je vais le faire peut-être pour ceux qui ne m'ont pas entendu à cette époque, raconter l'histoire de M. Monfray. C'était un homme, un père, dont l'enfant, enfin le fils qui était déjà grand à l'époque, était explorateur de l'Amazonie. Vous connaissez l'Amazonie, cette grande forêt de l'Amérique du Sud, grande comme 10 fois la France, et son fils est perdu dans la forêt. Et le père a pris le bateau, il est parti pour chercher son fils jusqu'à ce qu'il le trouve. C'est vraiment chercher une épingle dans une forêt. Il l'a cherché des mois. Il écrivait sur les arbres, « Raymond, si tu vois, Raymond revient. Raymond, Raymond, Raymond. » Il ne l'a pas retrouvé. Il a passé des années, il est revenu. Il n'a pas retrouvé son fils. La Bible dit jusqu'à ce qu'il le trouve. Ce qui veut dire qu'il va entreprendre une recherche qui ne va pas vous lâcher jusqu'à votre dernier souffle. Jusqu'à votre dernier souffle, il va vous dire « Je t'aime d'un amour éternel, viens à moi et tu auras la vie. » Et lorsqu'il l'a trouvé, tout n'est pas encore fait. Quand le Seigneur m'a trouvé, il a fallu que je fasse quelque chose, il a fallu que je dise oui, dans cette réunion d'évangélisation comme aujourd'hui, quand j'ai entendu l'évangile, j'aurais pu baisser la tête, fermer mon cœur, fermer mes oreilles. Enfin, ça, c'est pas facile. Dieu a fait en sorte qu'on ne ferme pas ses oreilles. C'est beau quand même. On ferme les yeux, on ferme la bouche, on ferme les poings. On peut pas fermer les oreilles. Et Dieu me parlait. Et ce jour-là, je me suis laissé saisir. Eh bien, la brebis, pour la ramener, il faut qu'elle se laisse saisir. Lorsqu'il l'a trouvée, je vous le dis, tout n'est pas fait. Il faut qu'il y ait sa participation. Vous avez déjà mis une brebis sur vos épaules ? Un jour, j'étais chez un fermier de notre église qu'on avait en Normandie, et il y avait des agneaux qui venaient de naître, puis je lui ai dit, est-ce que je pourrais prendre un agneau sur mes épaules ? Un tout petit agneau qui venait de naître, pour faire le berger, vous savez, le bon berger. Il m'a dit, faites attention, ils sont vraiment nerveux, attention, hein, ils sont... Un agneau qui, quand il se met à bouger, une brebis, écoutez bien, une brebis sur les épaules. Vous ne pensez pas qu'il faut que la brebis se laisse faire, se laisse saisir ? J'aime la parole de Jérémie. Tu m'as saisi ? Je me suis laissé saisir. Il y a des gens qui ne se laissent jamais saisir. J'en ai vu ici passer, je ne veux pas vous dire des centaines, mais pas loin, qui écoutent, qui dit c'est bien beau, mais qui se laisse jamais saisir, par le Christ, pas par moi. Jérusalem, cette ville magnifique a entendu le Christ prêcher l'évangile pendant 3 ans. Elle ne s'est pas laissée saisir. Et Jésus a pleuré sur Jérusalem, parce qu'elle n'a pas connu le temps de sa visitation. Mais le Christ s'est réjoui parce que Zachée s'est laissé saisir. Parce que l'apôtre Paul, le violent qui persécutait l'Église sur le chemin qui allait vers la Syrie encore, oui, eh bien, a vu une grande lumière et le Christ devant lui. Et là, il a dit, ça ne m'intéresse pas. À dimanche prochain, il a dit, qui es-tu, Seigneur ? Que veux-tu que je fasse ? Il s'est laissé saisir. Est-ce que vous vous êtes laissé saisir ? Mon fils, donne-moi ton cœur, dit Salomon dans la Bible. Ouvre la porte de ton cœur. Il y a une porte en nous, c'est la plus lourde. On l'ouvre presque jamais. C'est la porte la plus basse. C'est la porte qui est très étroite et qui est réservée à Dieu. Et parfois, je peux vous dire que pendant des années, on ne l'ouvre pas. On ne parle pas à Dieu, on n'écoute pas Dieu, on ne regarde pas Dieu, on ne veut pas de Dieu, ça ne nous intéresse pas, ça nous fait dormir, ça nous endort, ça nous fatigue, on n'ouvre pas la porte. Et je suis déjà allé dans des maisons où les portes ne s'ouvraient pas beaucoup et les portes qui ne s'ouvrent pas sont toujours coincées. C'est dur. Et cette porte, mes amis, cette porte à laquelle le Seigneur frappe pour entrer et nous prendre et nous ramener dans sa maison, cette porte, eh bien, c'est la porte de votre foi, de votre confiance. La brebis s'est laissée convaincre, non ? La brebis s'est laissée faire. Et quand Jésus parle ici de repentance, il dit « De même, si un homme se repent, il y aura de la joie dans le ciel. » Ça veut dire que cette brebis, pour se laisser faire, elle a dû laisser des choses. On ne peut pas avoir Dieu et le diable. On ne peut pas avoir Dieu et toutes les déviations de la sexualité, du vol, du mensonge. Il faut choisir. La vie n'est faite que de choix. Elle s'est laissée saisir, elle a dû laisser son herbe, elle a dû laisser toute sa bonne nourriture qu'elle trouvait, ses plaisirs trompeurs, ses découvertes, sa fausse liberté. Elle a dû laisser tout un chemin de perdition pour se dire maintenant, bien, je vais revenir à la bergerie. Jésus n'y va pas par 4 chemins. Il dit aux gens qui l'écoutent, « Vous avez pour père le diable. » Oh, les gens étaient choqués. « Oh, qu'est-ce qu'il dit ?» Quand on n'a pas Dieu pour père, Jésus dit, « Vous avez pour père le diable. Vous faites les désirs de votre père. Il est le menteur, le père du mensonge, le meurtrier. Et vous l'aimez et vous le suivez. » en pratiquant le mal. Mais dites donc, Jésus ne prenait pas des bons points là. Quand le Seigneur nous prend, il faut abandonner le diable et ses œuvres. On ne peut pas suivre deux chemins. On ne peut pas dormir dans deux lits à la fois. Vous avez déjà essayé ? On ne peut pas servir Dieu et Mammon, dit Jésus. Alors Jésus, cette brebis qui finalement va laisser son mauvais chemin de fausse liberté, elle va se laisser prendre, elle va se laisser saisir. Et Jésus dit, il la met avec joie sur ses épaules. Une brebis sur les épaules. Mais combien ça pèse une brebis ? 100 et quelques kilos, non ? Je ne sais pas, j'imagine. Quel berger ! C'est lourd, une brebis. Nous sommes lourds, vous savez. On a des vies très lourdes, très chargées, très encombrées. Mais seul le Christ peut nous porter. Et quand il portait sa croix en montant dans les ruelles de Jérusalem, sur le mont Golgotha, sur le mont du Calvaire, quand il portait sa croix lourde, c'est nous qu'il portait. C'est nos fautes, c'est nos maladies. C'est nos folies, pas seulement absurdes, mais destructrices. La croix, c'est toute l'humanité qui est sur lui, sur son cœur. Et la repentance, voyez-vous, la conversion au Christ, c'est pas seulement s'arracher du mauvais chemin, des mauvaises herbes, c'est porté par le Christ. Parfois, les gens se trompent sur moi, sur vous, sur nous. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être baptisé, pour être chrétien ? Il faut faire le bien. C'est déjà pas mal. Mais je leur dis surtout, il faut être pris en main par le Christ. Il faut être transporté par le Christ. Et l'apôtre Paul, quand il écrit aux églises de la Turquie d'aujourd'hui, il dit, vous avez été transporté par Dieu dans le royaume du Christ. On ne pouvait pas, nous, on était incapables. On est un peu comme des ballots, incapables d'aller vers ce royaume. Vous avez été transportés dans le royaume du Christ, comme la brebis portée par les épaules du berger. Oh, ça ne se passe pas toujours facilement, hein, la brebis qu'on transporte sur les épaules. Parce que parfois, il y a le loup. Moi, j'aime les loups. Et vous ? Bon, ce que je trouve dommage, c'est de mettre le loup dans la bergerie. Bon, mais je trouve que le loup est une belle bête. Ce n'est pas une bête répugnante, c'est un magnifique animal, sensible, intelligent, qui voit de loin, qui sent à 2 kilomètres. Moi, je sens parfois à 2 centimètres. Et vous ? La Bible dit dans un autre évangile, le berger voit le loup venir. Le loup qui vole la vie, c'est le diable. Vous l'avez compris. Il prend la vie pour la disperser dans 1000 choses, 1000 fautes, 1000 travers, 1000 cauchemars, 1000 brisures. Que va faire le berger ? Il s'en va ? Non. Il se met en peine pour les brebis. Il va même se défaire de sa vie, il va se battre contre le loup. J'aime beaucoup l'évangile qui dit il va se défaire de sa vie pour prendre notre vie dans son pouvoir et nous ramener au Père. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pas seulement l'entendre, si on entend, je ne sais pas si on entend, vous m'entendez bien ? Il faut y croire à cela. Parce que le Seigneur, il a les promesses de la vie présente et de la vie éternelle. La vie n'est pas faite que de diplômes et d'argent, et d'une maison, ou deux, ou quatre, comme vous voulez, ou de médailles d'or ou de bronze. La vie s'est faite de promesses pour cette vie et l'autre qui nous permettent de dormir sur nos deux oreilles et de savoir que nous sommes dans la main de Dieu pour l'éternité. Amen. Celui qui a le Seigneur a tout. me dirige près des eaux paisibles. Voilà, il se met en marche. Le Seigneur est sa brebis. Il me dirige près des eaux paisibles. Il n'y a que lui qui connaît les eaux paisibles. Nous, on se fie toujours à l'eau qui dort. Il y a des eaux trompeuses. Il y a des eaux empoisonnées. Il y a des eaux dangereuses. J'ai bien aimé une histoire vraie. Au Japon, il y a déjà très 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 longtemps, il y a eu un grand tsunami. Décidément, le Japon. Oh. Et la mer est rentrée dans la terre sur 30 kilomètres. C'est comme si la mer arrivait près de béton, quoi. Épouvantable. Et les anciens, japonais, il y a déjà très longtemps, ils ont mis des bornes dans les champs en disant ne construisez pas après la borne, parce que la mer peut venir. Mais les Japonais ont construit un quartier qui s'appelle Fukushima, vous connaissez ? C'est juste là. Il me conduit près des eaux paisibles. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand on trouve le Seigneur, eh bien, c'est pas tout à fait encore le paradis. On traverse des endroits dangereux. Il y a des faux amis, puis il y a des vrais ennemis. Il y a des obscurités, la vallée sombre. C'est resserré, c'est étouffant, c'est angoissant, c'est... Oh, ça donne de la crainte. Tout devient difficile. On avance avec peine, comme s'il y avait, je vais dire l'expression que j'aime pas trop dire, mais enfin, un véritable ensorcellement qui nous empêche de courir dans la vie. Puis c'est dangereux, la vallée de la mort. On peut mourir. C'est pas un jeu, la vie. Le péché, ce n'est pas un jeu. On peut en mourir physiquement et spirituellement. Quand je marche dans cette vallée sombre, dit la brebis, il n'y a pas de porte de sortie. C'est comme sur l'autoroute. Avant-hier, j'étais sur l'autoroute, on ne me l'a pas signalé, il y avait un bouchon sur au moins 30 kilomètres. Oh, perdu beaucoup de temps, et je me dis, mais on pourrait sortir d'ici, mais on ne peut pas sortir. Il n'y a pas de petite route en disant, le petit café là-bas, on peut y aller, on ne peut pas, et, impossible. Et dans cette vallée sombre, il n'y a pas de sortie. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas échapper. Mais la brebis, elle dit, elle, j'aimerais que ce soit ça que votre pensée aussi, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est l'essentiel. C'est l'expérience de la miséricorde de Dieu. Rappelez-vous Jonas, vous connaissez Jonas ? Jonas qui était dans le ventre du poisson, qui est descendu dans la Méditerranée, tout au fond de la mer, il dit « L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête et tu m'as fait remonter vivant de la fosse. » Il était dans la vallée de la mort. Et il a prié le Seigneur je ne crains rien, tu es avec moi. Un jour, personne ne pourra nous parler. On ne sentira peut-être même plus la maman qui nous a tant aimés à côté de nous. On partira. Il ne restera plus qu'un seul souffle pour dire, je ne crains rien, tu es là, Seigneur. Amen. Tu es avec moi. La foi est devenue un dialogue, une prière. Tu es avec moi. Une ferme assurance, une confiance. Et le bonheur et la grâce, je conclus, m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel avec les 99, amen, jusqu'à la fin de mes jours. Et moi, je vais vous dire, eh bien, la fin de mes jours, je vais vous dire quand ce sera. Jamais. Là, vous dites, vous exagérez quand même. Parce que je crois que je vivrai toujours avec le Seigneur. Et vous ? Quelqu'un m'a dit l'autre jour, si on savait la date de sa mort, on ne pourrait pas vivre. Au début, on ferait que des bêtises, puis après, ce serait la panique. On vivrait mal quand même. Mais Le bonheur et la grâce m'accompagneront et j'habiterai toujours dans la maison de Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur Dieu, merci d'avoir si bien parlé à notre cœur quand tu parlais du bon berger et de la brebis perdue et retrouvée. Saisis-toi de nous, Seigneur. Saisis-toi de nous et nous voulons cesser nos résistances, notre distraction des choses futiles et banales. Nous voulons remettre notre vie sur les épaules du Christ. Le péché n'apporte que des tristesses et la destruction. Toi, tu es venu pour que tes enfants soient dans la vie en abondance, la vie qui dure, la vie qui n'a pas de fin, la vie de Dieu. Saisis-toi de nous, Seigneur, et ramène-nous à toi. Amen. Ramène-nous à la foi, à l'espérance et à l'amour. Au nom de Jésus-Christ, amen. Je prie pour vous, mes amis. Je prie pour vous. Je pense que vous avez compris l'histoire de la brebis. Et je pense que nous devons être très sérieux avec cette histoire. D'ailleurs, il faut être sérieux avec toute la Bible. Il faut être sérieux avec Dieu, avec son âme, son corps, son avenir, sa présence, son présent. Je prie, et peut-être que si parmi nous quelqu'un dit « Je suis comme une brebis errante, cherche-moi Seigneur et ramène-moi. » Si quelqu'un veut dire cela, je suis comme une brebis malade, une brebis qui s'est égarée. Je crois que le Seigneur vous prendra par la main et vous ramènera à lui. Amen.